Les fleurs de la lande. 30e jour du 3e mois de l'an 2325. Cité de Mut. À l'orphelinat Jus, j'ai appris que Sileki était malade. Je suis allée lui rendre visite à la maison de santé de Grunerdeuil, qui est bâtie en cœur d'îlot. Avec ses innombrables passerelles qui la joint toi à tous les étages du quartier, elle ressemble à une épaire diadème au cœur de sa toile. J'ai eu tout le temps d'admirer les perspectives de la ville par les baies vitrées. Et comme le sol de la salle d'attente est lui aussi vitré, j'ai pu regarder entre mes pieds le trafic de Mut. Les cabines filant sous les câbles, les surfs glissant d'une corniche à une autre, les piétons vêtus de couleurs vives s'égrénant comme des pucerons le long des ponts. 100 000 citadins complétés par autant d'habitants animaux font un fameux spectacle, même si je connais l'effondrement des courbes démographiques. La cité de Mut est décidément une belle ville, très verte. Loris peut être fier. Les frondaisons se succèdent et se soutiennent, s'écroulent en rideaux le long des murs de basalte luisants de duraglace, s'étendent en pelouse, puis remontent en bosquet vers les hauteurs, vert clair des feuillus et vert sombre des épineux. Même là où la place manque, on aperçoit toujours un petit buisson de lavande ou un collier de tomates cerises, ou une jardinière minuscule d'où jaillit, comme une source trop contrainte, un torrent de bougainvilliers. L'état de santé de Sileki est stationnaire. C'est tout ce que j'ai pu apprendre à la maison de santé. Mon attente a été inutile. Je n'ai pas eu le droit de la voir. J'ai essayé de joindre son père, mais il n'a pas répondu. J'ai encore attendu jusqu'à ce que l'heure des visites se termine. Ce soir, la nuit va tomber sur la lune, et les mini-colas vont briller comme des saphirs sous le clair de terre. Mes drones veillent sur la fissure de la côte 237 et sur son confinement. Depuis que j'ai fait souder le volet par-dessus la dalle de duraglace, j'ai renforcé la veille sur l'étanchéité de la totalité du dôme. La question n'est pas « est-ce que ça va craquer ?» mais « où et quand ?» La mousse que j'ai sauvée au pied du bonsaï des Vélangues pousse à merveille. Épaisse, humide et bombée, elle trône triomphalement dans le creux que je lui ai confié. Ça fait au moins une bonne nouvelle. Premier jour du 4e mois de l'an 2325, cité de Mut. Sileki est décédé à l'aube de Mut. J'ai tenté de présenter mes condoléances à son père. La maison était remplie de membres de la famille au visage contracté. On entendait le père sangloter à travers la cloison. Je ne me suis pas attardée. J'ai demandé à Loris des fleurs pour tresser les couronnes mortuaires. J'en ai composé 3 avec des lys blancs. J'ai aussi demandé à Trim de me faire envoyer des bouquets de la ferme. Sitôt qu'elles seront arrivées, je ferai un coup fin. Je le souhaite le plus gros possible. Je sais qu'il ne faut pas cependant qu'il soit trop imposant face à ceux de la famille. J'y réfléchis. Sileki sera incinéré. C'est le cas de toutes les victimes de la fièvre aspique, pour des raisons dites sanitaires et que je ne m'explique pas. Brûler les corps n'a aucune utilité. La fièvre aspique n'est pas une infection, il n'y a pas d'épidémie. On parle de surmortalité. J'ai dû rectifier mon programme. J'ai annulé une visite à Zante que je voulais faire avec Sileki pour lui présenter Campanus. J'ai aussi annulé sa session d'apprentissage horticole. La mort a ceci de particulier qu'elle dérange l'avenir en grand et en détail. Trim m'a informé que la fissure de la côte 237 mesure maintenant 2,42 m et traverse le duraglace quasiment de part en part. Elle a dû être, à nouveau, injectée et polie par les drones d'entretien après le crépuscule solaire. D'autres fêlures extensives sont à redouter, car une fragilité en entraîne toujours une autre et trahit un grave souci structurel, je le répète. Deuxième jour du 4e mois de l'an 2325. Ferme la lande. J'ai accompagné Sileki au Célestis. Aucun membre de la famille ne m'a adressé la parole. Je comprends leur attitude. Les fleurs étaient belles, surtout mes gerbes de mimosa que j'avais entremêlées d'eucalyptus. Mais une simple poignée de crocus mauve aurait fait un hommage plus convenable à la grâce discrète de Sileki. J'ai médité un moment sur la mort de ces fleurs. Exécutées, elles gisaient sans force au-dessus des restes d'une petite fille qui n'avait jamais voulu en cueillir une seule de son vivant. Ainsi vont les symboles. Je suis allée ôter des morts après la cérémonie. Les convives parlaient à voix basse de sujets mineurs, tous consternants. Il critiquait le système de soins, la commanderie, le plan climat, la qualité de l'air, le service funéraire et l'éclairage du temple. Je suis éternellement étonnée de la capacité qu'ont les citadins sous-lunaires de focaliser leur attention sur un point minuscule et d'en tirer autant de récriminations. Il faut avouer que le moment n'était pas à la gaieté. Le deuil colorait chaque mot. Je me suis éclipsée assez vite. Alors que j'étais sur le seuil, le père de Sileki est venu vers moi. Cet homme est littéralement défiguré par la douleur. Il m'a tendu le petit globe de Sileki, celui qui est rempli d'eau et de peluche blanche. Je l'ai accepté. Il faut que je rentre bouturer la Königin d'Hermond. J'en planterai un rejet près de l'urne de Sileki. Cinquième jour du quatrième mois de l'an 2325. Ferme Lalande. J'ai purgé le circuit des chlorelles de la ferme Lalande. Leur belle teinte verte tournait au saumâtre. Sileki aimait poser ses mains sur le tuyau pour voir ses jointures virer au jaune citron. Je crois que c'est ce souvenir qui m'a permis de comprendre que la couleur des tubes de chlorelles s'était altérée. J'ai passé beaucoup de temps à observer la Terre depuis l'observatoire zénital. Sa rondeur parfaite m'a rappelé le visage de Sileki. Cette petite avait les plus belles joues du monde, des joues aussi nuancées que celles d'un abricot mûr. J'ai déposé sur le tableau de commande le globe que m'a offert son père. Il luit dans l'ombre comme une planète. J'ai repiqué de l'eau brillette dans la rocaille. Ensuite, je me suis occupée du dernier envoi de zante, des larves de grillons. Il est dommage que je ne puisse pas les montrer à Sileki. Ce sont les seules larves d'insectes que les enfants trouvent jolies. Le souvenir de Sileki semble faire une boucle dans mes pensées. C'est perturbant. Par exemple, alors que je relogeais les larves dans un abri, j'ai été distraite par une idée sans rapport avec mon activité du moment. Une réflexion s'est imposée d'elle-même. Je me suis dit qu'il était regrettable que la fièvre aspic fasse autant de victimes, et qu'il fallait que j'agisse.
« Tu aurais pu y penser plus tôt ?»
a persiflé Trim. Mais la physiologie humaine, ce n'est pas ma partie. D'un autre côté, ceux dont c'est le métier n'ont rien trouvé. Je pense qu'un regard neuf sur le sujet ne peut pas nuire.
C'est la mort de Sileki qui t'inspire?
Sileki n'est qu'une victime parmi d'autres.
Mais c'est une victime qui te touche de plus près.
C'était surtout une horticultrice née. De ce point de vue, sa mort est un gâchis. Ayant fini les repiquages, j'ai décidé de revoir la littérature existante sur la fièvre aspic. Le printemps se chargera tout seul de faire resplendir le jardin, je lui fais confiance. Et les herbeaux sont là pour buter si nécessaire. J'ai parcouru les données sanitaires. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans depuis longtemps. On dirait, non que les recherches ont cessé, mais qu'elles languissent. Stirn, le responsable intercité de la santé des sous-lunaires, est pourtant un bon coordinateur. Et les chercheurs sous-lunaires sont d'habitude remplis d'idées neuves. Je pose là mon étonnement. Sixième jour du quatrième mois de l'an 2325. Ferme Lalande. Je vais résumer les connaissances concernant la fièvre aspic. J'espère qu'une association d'idées inédites en sortira. Nous savons déjà ce qu'est la fièvre aspic. Une conséquence de la faible pesanteur lunaire sur l'organisme humain. Je ne vais pas répéter ici les considérations sur l'hémodysfonction, elles aboutissent toutes à la dégénération des tissus. L'organisme se croit en hypervolémie et se retrouve en hypovolémie, ce qui entraîne une nécrose diffuse. Elle s'attaque à trois zones dont le fameux noyau de Meinert, l'ange de l'éveil. Je crois que je suis retombée dans les termes techniques. J'arrête. Quand ils sont atteints de la fièvre aspic, les citadins sous-lunaires commencent par dormir davantage que les autres, jusqu'au jour où ils ne se réveillent plus. Les perfusions ne font que retarder l'échéance, et aucun traitement n'apporte la moindre amélioration. Le processus est toujours le même. Sommeil, sommeil profond, coma et mort. Le syndrome de la fièvre aspic était déjà présent chez les premiers astronautes, même s'ils n'avaient pas le temps d'en mourir. Ils le nommaient « face bouffie sur pattes d'oiseau ». Ils récupéraient vite une fois revenus sur Terre. Quand les premiers cas de fièvre aspic sont apparus, les scientifiques ont mis du temps à prendre la mesure de la menace. Il leur a fallu quelques années pour décrire le syndrome. Il n'a pas grand-chose à voir avec la morsure d'un serpent aspic, mais le terme a dû plaire. L'image de la reine Cléopâtre s'endormant pour toujours, un serpent sur son sein, a dû jouer un rôle. Depuis, les scientifiques n'ont rien décrit de très nouveau. Étonnamment, le corps humain, pourtant si réactif, n'a pas su résoudre le problème. Pas encore, du moins. Les généticiens guettent le miracle ADN, le coup de génie génétique qui donnera naissance à une mutation salvatrice. Hélas, elle tarde. De leur côté, les statisticiens ont analysé des données en quantité phénoménale. Mais ils n'ont jamais réussi à dessiner le profil type de la victime de la fièvre aspic. Le syndrome frappe au hasard. Ils se moquent du genre, de l'âge, de la couleur, du rhésus, du mode de vie, du régime alimentaire, du nombre de tractions quotidiennes, de l'hygiène dentaire et de tout ce qu'on a pu imaginer pour discriminer les populations. Le dilemme est simple. Les êtres humains ne sont pas faits pour vivre sur la Lune. Et la Terre n'est plus faite pour eux désormais. Ce qui laisse peu d'options. Il y a peut-être une piste pourtant. La cité franche du Grand Large, de l'autre côté de la Lune. C'est la toute première cité sous-lunaire à avoir été bâtie dans un tube de lave par des lunaires fuyant les vents solaires. La cité franche serait moins touchée par la fièvre aspic. J'utilise le conditionnel parce qu'il est difficile d'obtenir la moindre information fiable de la part de gens aussi mal embouchés, et la moindre information tout court de la part d'une communauté qui s'est farouchement isolée depuis 2 siècles. Je suppose qu'on a déjà tout essayé pour percer le secret de l'immunité de la cité franche. Stirn, le responsable intercité de la santé, a sûrement déjà tenté tout ce qui est légal. Il est par force absolument légaliste. Pour l'illégal, c'est du ressort de la commanderie. Des rumeurs assurent qu'elle a envoyé vers la cité franche des essaims complets de drones espions, chargés d'analyser tout ce qui était analysable. Mais les rumeurs infondées sont le pain préféré des citadins de Mut. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu des espions, s'ils ont épluché les modes de vie des différents quartiers de la cité franche, ça a été en vain. Peut-être qu'ils ont seulement constaté que les francs citadins meurent tout autant de la fièvre aspic que les autres. Ou bien qu'ils n'ont pas le temps d'en mourir, s'étant entretués avant. Avoir un libre accès à la cité franche faciliterait bien sûr les recherches. Mais il ne faut pas compter dessus, se lamentent les chercheurs dans leur rapport aussi souvent que je désigne la Minicola comme un cultivar à détruire et la Côte 237 comme un point à surveiller. En désespoir de cause, les chercheurs ont injecté à des volontaires de Mut un cocktail d'adrénaline et de cortisol pour les amener au niveau d'agressivité des francs citadins. Toujours en vain. Dans le grand public, les soupçons les plus noirs se sont portés sur la Terre. Certains ont accusé sa douce lumière bleue des pires méfaits. Le fait que les cités soient systématiquement sous-lunaires et que quelques-unes d'entre elles soient dans le grand large, hors de portée de l'influence terrestre, et que toutes soient frappées par la fièvre aspic, n'entament pas leurs convictions. Des poètes ont même brodé sur « le soleil bleu de la mélancolie ». Mais on ne meurt pas de mélancolie. Me voilà au bout de mon résumé, et je n'ai trouvé aucune association d'idées innovantes. J'en ai parlé avec Trim, qui est catégorique.
Je n'ai pas la moindre hypothèse supplémentaire. N'insiste pas.
Comme il faisait des boucles avec sa queue, j'en ai conclu qu'il faudrait que je travaille seul sur ce dossier. C'est un signe qui ne trompe pas. 8e jour du 4e mois de l'an 2325. Ferme Lalande. Dans les jardins de la ferme Lalande, les myrtes poussent à merveille. Je coiffe les lilas qui dorment encore, je contrarie la lentille et j'encourage le noyer, en chanson, naturellement. Les plantes aiment qu'on leur parle, pourvu que ce soit harmonieux. Un rossignol sur l'épaule gauche et un merle sur la tête, je rends visite à chaque brin d'herbe, et je prends de ses nouvelles. Le jasmin et le chèvrefeuille ont recommencé leur lutte lente et féroce. Les prunus pâlissent de pétales. C'est enfin le printemps de la ferme. Les oiseaux piochent dans la balle de lin que j'ai préparée pour eux. Ils tissent, avec la mousse, de jolis nids blonds et verts que j'enlèverai enfin de couvaison. Je les offrirai aux enfants. Je crains, si je les laisse en place d'une saison sur l'autre, que les oiseaux s'en servent pour leur nichée suivante et perdent sans retour leur instinct de bâtisseur. Les rainettes se sont multipliées dans les pièces d'eau. Les hérons sont ravis, les couleuvres aussi. Je me retourne fréquemment pour prendre Trim à témoin. Je lui montre les pouces dentelées du persil et le bec jaune des rumbas qui pointent sous l'aisselle des longues spates pointues. Trim me fait remarquer.
Je n'ai pas besoin de leçons. Je connais ce jardin aussi bien que toi.
Ce chat manque parfois d'amabilité. Je découvre que la volonté de transmettre ce que je sais persiste en moi. C'est quelque chose que je dois à Sileki. Il est vrai que cette petite fille montrait un intérêt prometteur pour le jardinage, mais mon regret est une aberration. Même si Sileki était encore en vie, elle n'aurait pas pu faire de longs séjours avec moi en surface, sous les vents solaires. Cependant, autant je me serais passé de sa présence sans aucun problème si elle avait été vivante, autant je suis insatisfaite d'y être contrainte par sa mort. Toutes ces considérations sont inutiles et me distraient de mon travail. Il n'en souffre pas, mes routines sont solides. Mais je suis étonnée par moi-même. J'ai connu d'innombrables citadins sous lunaire qui sont morts, de la fièvre aspique ou d'autres choses. Beaucoup étaient des enfants. C'est toujours dommage. Ça n'avait jamais été dérangeant. Une image s'est imposée à moi tandis que je repiquais des poquets de petits pois. Je vois littéralement la trace lumineuse de Sileki dans ce monde s'interrompre brutalement. Cette trajectoire brisée est d'un manque d'harmonie qui me choque. Or, la recherche d'harmonie est centrale chez moi. C'est mon métier, en plus de l'agriculture. On m'a enseigné à évaluer la juste place d'un élément par rapport à d'autres, du point de vue de l'esthétique et de l'utilité. La mort de Sileki n'est pas à sa place. Les livres que j'ai lus parlent sans fin de deuil et de chagrin. Ils les sonorisent en sanglots et en cris de désespoir. Ils montrent des paysages riants soudain desséchés par la perte. Je pense qu'ils m'ont aidé à identifier quelque chose dans la disparition de Sileki qui se situe au-delà du jardinage. Mais je les aurais mieux compris s'ils avaient employé les termes « scandale » ou « erreur ». Ou quoi que ce soit qui évoque une réaction de rejet face à un gâchis de compétences et une rupture relationnelle. Je conclus mon raisonnement en affirmant qu'il n'est pas correct que cet enfant doué n'ait pas eu l'occasion de développer ses facultés. Cependant, c'est un fait. Je n'ai pas de correction particulière à y apporter. Mais je peux essayer d'en trouver une qui soit plus générale. Donc je vais, tout en veillant sur le printemps de la ferme, reprendre ma réflexion sur la fièvre aspique. Il y a forcément une solution quelque part. La lumière brisée de Sileki, fine comme un cheveu, lui, dans mon paysage mental. Je suppose qu'elle ira en s'affaiblissant. 10e jour du 4e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Je lâche sur la ferme des pluies fraîches qui distillent une odeur de racines mouillées. Les lézards s'étalent sur les pierres avec un plaisir évident et les oies se battent dans un grand envol de duvet. Les lilas déplient leurs grappes, les choux tirent hors du sol une petite langue pointue. Je brumise le café, je démêle le bougainvillier, je mesure les feuilles de figuier et je remercie le thym d'être tellement dénué de problèmes. Je crois que la ciboulette commence à friser. Encore un effet des vents solaires, c'est à parier. Clairement, je n'ai pas assez taillé le romarin et il est trop tard. Trim veille sur les boucles des courges. Je sais qu'il attend que les feuilles soient assez grandes pour faire la sieste dessous. Des enfants sont venus danser entre les prunus en fleurs. L'une d'entre eux levait les deux bras en corbeille, exactement comme Sileki. Il n'est pas dans mes habitudes de mal soigner le romarin. Ma réflexion sur la fièvre aspique piétine. J'attends un enchaînement d'idées, mais il tarde. 15e jour du 4e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Je regarde l'aube de la ferme dorer la buée qui monte de l'herbe. Au creux des feuilles, des gouttes d'eau ronde scintillent. De l'autre côté du dôme, le soleil va bientôt se lever en grondant et user la résistance de la dalle fendue de la côte 237, je le rappelle. La lumière solaire bien filtrée remplacera l'éclairage artificiel. Elle est à la fois plus intense et plus blanche. Les plantes la préfèrent à l'autre au nom de je ne sais quel instinct. Je me suis promenée près de l'étang. Je réussis désormais à maîtriser le mouvement qui me fait tendre une main derrière moi pour attraper celle de Sileki et empêcher qu'elle tombe à l'eau. Mais ce réflexe est toujours là. Je me demande pour combien de temps. Trim aperçut ce moment délicat. Il a choisi cette seconde pour me passer entre les jambes en miaulant. Puis il a levé vers moi son menton et m'a réclamé une caresse. C'est sa façon de me distraire de ma préoccupation, je suppose. Cet animal me surprend. Je continue à lui donner des leçons de jardinage inutiles, et il ne proteste plus, même si sa queue fait parfois des boucles expressives. Je pense qu'il m'aime. C'est son métier. Debout près de l'étang, je me suis concentrée sur un autre sujet. Je me suis rendu compte que je me tenais à l'endroit exact où Ren Constat s'arrêtait, à gauche du saule. Je suis restée là un moment, goûtant l'odeur fade de l'eau et songeant au vieux marin. J'ai pris Trim à témoin. Si Ren Constat était encore en vie, ça sentirait moins bon que l'haleine de la vase.
C'est sûr, il puait l'urine confite de musaraigne. Et la sueur.
Et l'énergie fossile, curieusement.
Il avait ça dans son respirateur.
Je me suis étonnée. Je croyais que Ren Constat se promenait avec un oxygénateur. Pas du tout. Il ne manquait pas de quoi que ce soit physiquement. En tout cas, pas d'oxygène. Mais mentalement, c'est la terre qui lui manquait. La terre, son urbanisme mortel, son kérosène et ses goudrons. C'est pour ça qu'il avait bricolé son appareil, pour pouvoir respirer un mélange de gaz carbonés. Des gaz carbonés ?
Probablement extraits d'antiques plastiques pétroliers fondus.
J'ai souri. Trim aussi. J'ai vu ses moustaches remonter. Les citadins sous-lunaires sont tellement inventifs. Odeur de fioul et de calfa, odeur de porc, de vieux porc goudronneux et sourd où la marée délaye lentement l'ombre des grands navires. J'ai murmuré. Oui, les ports terrestres, ça devait être quelque chose d'inoubliable. Trim a ajouté.
Cet antique pied plat ne me manque pas. Il piétinait les semis et grommelait aussi fort qu'un franc citadin.
La lumière s'est allumée à ce moment-là dans mon esprit. Ren Constat a fait de vieux os et il avait un vrai caractère de franc citadin. C'était une évidence. Il fallait un esprit plus souple que le mien, un esprit comme celui de Trim pour faire cette association d'idées. Entre un caractère, une longévité et une atmosphère polluée. J'aurais pu aller au cimetière des Veilleuses pour récupérer le respirateur trafiqué de Ren Constat. Mais je ne croyais pas à sa conservation par moins 170 degrés centigrades. Et puis, je fais confiance au nez de Trim. S'il dit que cet appareil était plein de pétrole cramé, je n'ai pas besoin d'analyse. Il m'a paru plus utile de m'intéresser à l'atmosphère de la cité de Mut. C'est facile. Les données sont en accès ouvert sur les serveurs de Mut. L'atmosphère de la cité de Mut est composée d'un bon 2/3 d'azote, d'un petit tiers d'oxygène et de 1% de microtraces, dioxyde de carbone, ammoniac, méthane et poussières organiques. Perché dans l'observatoire face à la Terre, je médite sur ces chiffres. Je sais qu'une analyse comparée des microtraces atmosphériques et des cas de fièvre aspique a été faite. En vain, comme d'habitude. Mais la Cité Franche manque à l'appel des résultats officiels. Parce que la Cité Franche accueille les enquêteurs officiels à coups de fusil balistique. Il va falloir que j'aille analyser son atmosphère. C'est à peine plus facile qu'analyser l'atmosphère terrestre et sûrement pas plus ragoûtant. Je relève les yeux. Devant moi, sous le soleil, le petit globe plein de peluches de Siléki porte à son flanc un croissant de lumière. Trim saute sur mes genoux et m'annonce que les clémentiniers sont en bourgeon. Je suis descendue voir les bourgeons des clémentiniers. Le noyer déploie ses longues chenilles de velours. Lui aussi m'évoque Siléki. Elle aimait beaucoup les noix. Je suis allée ensuite dans l'espace de confinement de la côte 237 pour une visite de routine suivant l'aube solaire. La fissure a été comblée, surfacée et polie tant de fois qu'elle forme une zone trouble à l'ombre du volet scellé. Les tonnes de contraintes qui pèsent sur elle sont vertigineuses. Je ne doute pas qu'elle les redistribue autour d'elle, et c'est ce qui menace le plus la vie de la ferme Lalande. Le duraglace est un matériau solide et intelligent, mais il ne peut pas supporter indéfiniment une trop forte compression. Ce n'est simplement pas dans sa nature, qui est celle d'un œuf. La résistance mécanique d'un œuf est idéale, tant qu'on ne brise pas sa coquille en un point. 17e jour du 4e mois de l'an 2325. Ferme Lalande. Voici venu le temps des fleurs. Les oiseaux sont ivres d'amour. Et les abeilles, rendues féroces par la fatigue. Le temps des fleurs, cette buée de couleurs qui roule sur l'herbe, éclabousse les buissons et cascade depuis les frondaisons dans une cacophonie de parfums, est aussi le moment où se dessine le futur de la prochaine saison. Ou pas. Il suffit d'un tremblement de lune, d'une aube solaire un peu plus sismique que d'habitude sur une fissure mal gérée, ou d'un dégazage issu des entrailles de la planète pour que tout soit à reprendre à zéro. C'est déjà arrivé. C'est mon métier. Je pense que je vais finir la pollinisation des vanilliers, qui ne va pas de soi, et qu'ensuite je partirai en voyage. J'irai vers la Cité Franche, de l'autre côté de la Lune, sur cette face que ne voit jamais la Terre. Le Grand Large. Je mentionne ce voyage dans mon rapport pour que la commanderie soit informée. Il ne s'agit en aucun cas d'une demande d'autorisation, d'un signalement ou d'une alerte qui risquerait de tomber dans le vide, comme tous les précédents. 22e jour du 4e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Zant m'a averti que Campanus venait d'avoir sa première portée et que celle-ci est bleue. J'ai demandé à voir Campanus. Zant m'a assuré qu'elle ne me reconnaîtrait pas. De fait, Campanus a mis un temps infini à sortir de sous la mousse pour venir chercher la larve que je lui tendais. Mais elle a accepté que je lui gratte la tête et elle m'a regardé bien en face, son petit museau toujours frémissant. J'ai éprouvé une réelle satisfaction. Il me semble que les capacités cognitives de Campanus sont supérieures à celles des musaraignes communes. Zant n'a pas paru convaincue. J'ai souhaité un moment ramener Campanus à la ferme, mais comme je n'avais aucun argument à donner à Zant, et pas plus à moi-même, j'ai repoussé cette idée saugrenue. Je me suis penchée sur ce souhait que j'avais formé. Il m'est apparu que Campanus est le symbole d'un lien précieux. Elle symbolise un lien entre le petit et le grand, le minuscule et le massif, que tout sépare mais qui partage le principal, un écosystème. La différence d'échelle entre elle et moi est colossale. Je me suis imaginé face à face avec un être de 1000 tonnes, mettons un troupeau de 10 baleines bleues mesurant 20 mètres chacune. Je les imagine nageant vers moi, dans le vide lunaire, pour m'offrir, du bout d'une nageoire, une larve de coccinelle. Je me suis demandé si j'aurais le cran de tendre mon nez vers la première d'entre elles et de la regarder dans ses gigantesques yeux. J'ai compris que Campanus est incroyablement courageuse. Qu'elle est la plus courageuse des créatures de ne pas être simplement morte de peur à ma vue. Elle a fait mieux que ne pas mourir. Elle a appris à me connaître. Elle m'a apprivoisé, elle a couru sur mes bras, posé son museau sur ma joue, fait pipi sur mon épaule. Elle a dormi près de moi en confiance. Elle m'a fait don du spectacle de ses gestes emplis de grâce, de sa silhouette ronde dont le pelage a le brillant d'une pierre précieuse, de ses humeurs pleines de piquants. Elle a fait, presque toute seule, le long chemin qui nous sépare sur l'échelle des êtres. Et elle l'a fait à ses seuls risques et périls. Je me suis sentie envahie par l'admiration, à la fois pour elle et pour le lien que nous avons noué. Il m'a paru moins saugrenu que j'ai eu envie de le resserrer en ramenant Campanus à la ferme. Mais elle est mieux là où elle est, parmi les siens. Ce que je ne peux pas dire de Siléki. Je me suis aussi demandé ce qui pouvait subsister de moi, de Trim et de la ferme dans la tête de Campanus. Quelles images, quels souvenirs? Est-ce qu'elle rêve de créatures hautes comme des montagnes qui poussent des mugissements en se penchant vers elle, comme des arbres dans le vent? Ou peut-être que ses songes sont sensoriels? Qu'elle retrouve parfois sur sa langue très rose le goût d'une larve de coccinelle? Ou dans ses narines, l'odeur d'une graine de betterave. Je me suis demandé à quoi ressemblent toutes les ombres que j'ai projetées sur autrui. Dans le crâne rond de Siléki et dans celui de Trim, dans ceux de tous mes visiteurs, de toutes mes visiteuses, et même sous la calvitie de Reine Constate. Je crois que je suis en train de me remplir de symboles, moi aussi. Ils suivent les images que précèdent les mots. Ces idées parasites se font de plus en plus nombreuses. J'essaie de m'en débarrasser, mais j'ai l'impression gênante que ce n'est pas moi qui émets ces pensées. Ce sont elles qui se servent de moi, à la façon d'une piste de décollage. Elles se forment comme des bulles au fond d'une mare, puis elles montent et éclosent. En méditant sur cette image, j'ai compris que je devais mes idées parasites à la fermentation de la disparition de Siléki au fond de mon esprit, là où les images se combinent comme des acides aminés. Je n'ai pas su empêcher Siléki de mourir, et cette sensation d'inutilité m'a révélée à moi-même. Cette nuit à la ferme, les premiers vers luisants ont commencé à briller dans la forêt.